Eh bien, les amis, bon kertov les koulam, et presque Chag Sameach, parce que pour nos amis à l'extérieur des villes fortifiées depuis l'époque de Yehoshua Ben Nun, eh bien, c'est demain soir, Pourim, si je ne m'abuse. Évidemment, nous savons tous que le vrai Pourim, ça sera mardi soir, mercredi, pour les Jérusalémiens et autres Hébroniens. Mais en tout cas, les amis, aujourd'hui, je vois qu'ils font du bruit. Non, ça va. OK. Et pour la réfoua, d'accord. Très bien. Alors, les amis, allons-y. Et je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. On va parler aujourd'hui de Pourim, mais d'une particularité de Pourim, on va se concentrer sur un personnage très, très, très important de la fête de Pourim. Je change d'endroit parce que je vois qu'ils sont en train de préparer le petit déjeuner de la bar mitzvah où je suis. Et donc, pour votre plus grand plaisir et votre confort, je vais me mettre dehors et il va cailler parce que en France, ça caille. Mais là, je ne sais pas comment trouver un bon endroit. Rabotaï. C'est pas grave s'il y a le fond. J'ai
Oh.
l'impression d'être
On se
un.
débrouillera, on se débrouillera.
On se débrouillera, j'ai l'impression d'être un ange. Oh, attends, c'est quoi? On va mettre un autre fond, peut-être qu'on peut.
Non, non, Rav, tant qu'on vous entend, c'est bizarre. Et le fond,
Là, ça y va. Alors, allons-y. Très bien, c'est parfait. Donc, les amis, on va parler de Pourim, de la fête de Pourim. On va parler d'un personnage très particulier durant cette fête de Pourim. Les amis de Zohar HaKadosh vont nous expliquer que cette phrase, d'ailleurs, qui ne vient pas que du Zohar, mais que Talmid Chacham Nikra Shabbat. Que le sage, que le tzaddik, il a quelque part une dimension de Shabbat. Alors de quoi parle-t-on? Évidemment, c'est pas qu'il devient un jour de la semaine, mais le Shabbat est la première des Moadim. Vous savez, dans la Torah, lorsqu'on va nous parler de la paracha des Moadim, c'est-à-dire de la liste des fêtes juives, eh bien le premier d'entre eux, c'est Shabbat. Shabbat, la Moed Arishon. Après, vous avez Pessah, et ainsi de suite. Mais comme vous le savez, on l'a déjà expliqué maintes et maintes fois, Moed, ça veut dire une rencontre. C'est un temps de rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Que ce soit Shabbat ou les fêtes, ce sont des moments où on peut rencontrer Akadosh Baruch Hu. Eh bien, le Talmid Chacham, le tzaddik, lui aussi est un moyen de rencontrer Akadosh Baruch Hu. Car grâce à lui, par lui, eh bien, on va pouvoir tout simplement être en contact avec le divin. C'est ce que vous faites quand vous allez voir un tzaddik, que vous allez voir un rav pour lui poser des questions. Eh bien, je vous rappelle que le premier qui a fait ça, qui a expliqué que la rencontre avec le rav n'est pas censée être la rencontre avec le rav, mais la rencontre avec Akadosh Baruch Hu, ni plus ni moins, eh bien, c'est bel et bien mon cher Abed. Alors que les choses soient bien claires, je me dédouane tout de suite, hein. Ça, c'est quand vous rencontrez des vrais rabbins, comme le Rav Cherki, comme le Rav Benaroche, pas des petits jeunes qui se la jouent avec des fonds illuminés derrière eux. Absolument pas. Donc ça, je parle de vrais tzadikim. Eh bien, lorsque tu rencontres ces tzadikim, mon cher Rabbeinu nous a expliqué dans la paracha de Yitro, rappelez-vous, que vous vous rappelez, lorsque tout le peuple faisait la queue pour venir voir Yitro, pour venir voir Sram Moshe qui lui rende la justice. Rappelez-vous de cette situation qui n'était pas cocasse, mais qui était complètement absurde. Vous avez tout un peuple qui fait la queue pour qu'un homme rende la justice pour tout le monde. Et que les choses soient claires, même s'il est évident que Moshe, il est largement au-dessus de n'importe quel juge. Disons que Moshe est capable de régler un litige entre deux personnes en 1 minute, frais de dossier compris. Ça va très bien, quand la cavotte Moshe Rabbeinu, 1 minute! Pour un dossier, c'est fantastique. Bon, d'accord, mais sauf que si on regarde, ça veut dire que dans la journée, eh bien, il va pouvoir traiter presque 1 500 dossiers. Extraordinaire. Bien mieux que n'importe quelle bagatelle. Le problème, c'est que 1 500 dossiers, ça règle des problèmes de 3 000 personnes. Sur un peuple de 3 millions de personnes, vous comprenez bien que bah, ça ne va pas régler les problèmes de tout le monde. Et donc, Yitro vient le voir et lui dit, mais enfin, tu sais très bien que ça ne marchera pas. Réponse de Moshe, mais bien sûr que je sais que ça ne marchera pas. Mais enfin, j'ai fait Sciences Po l'Égypte, je sais très bien comment on gère un pays, et je sais très bien que pour gérer tout un peuple, il va falloir mettre en place des tribunaux et dans des secteurs et ce que vous voulez. Mais la première journée de jugement, je veux être le seul qui rend la justice. Pourquoi ? Pour que tout le monde prenne conscience qu'il y a vos Elai, Aham, Lidrosh, Elohim. Que lorsque le peuple vient me voir, eh bien, c'est pas seulement pour régler leurs problèmes entre eux, mais c'est également pour rencontrer Akadosh Baruch Hu. Donc, effectivement, le tzaddik, eh bien, c'est celui par qui tu peux, de la même façon qu'il y a les fêtes, les temps de rencontre avec Dieu, eh bien, le tzaddik, c'est un autre moyen de rencontrer Akadosh Baruch Hu. Évidemment, l'idéal serait qu'on soit tous capables de dévoiler Dieu, et on en a tous le potentiel. Mais bon, dans les faits, on n'y est pas forcément tous. Et évidemment, vous le savez, nous avons un troisième élément de rencontre qui s'appelle le lieu, le Beth Amikdash, Jérusalem et la terre d'Israël. Donc, je reviens sur ma phrase de base, que Talmid Racham Nikra Shabbat. Comme vous l'avez vu dans la paracha des Moadim, eh bien, au niveau des fêtes, nous avons Shabbat et les fêtes. C'est deux dimensions différentes. Quelle est la dimension différente ? Eh bien, vous le savez bien que Shabbat est bara v'kaima, c'est-à-dire que Shabbat, ça ne bouge pas. Shabbat ne dépend pas des actions du peuple juif. À tel point que même au niveau de la halakha, quelqu'un qui est perdu dans le désert, je ne sais pas quoi, il ne sait pas quand est-ce que c'est Shabbat, qu'est-ce qu'il doit faire ? Eh bien, il doit commencer à partir du jour où il est, il compte 7 jours et c'est Shabbat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action particulière pour déterminer le Shabbat. À l'inverse, les fêtes, Yamim Tovim, certes, Dieu nous a dit que le 15 Nissan, ce sera Pessah, mais qui va déterminer quand c'est le 15 Nissan ? Eh bien, c'est le peuple juif, puisque Rosh Chodesh est mis en place par le Ham Israël. Donc, il y a quand même une grande différence entre Shabbat et les fêtes, où Shabbat ne dépend de rien d'autre que Akadosh Baruch Hu, et les fêtes dépendent quand même des actions du Sanhédrin, du peuple juif, pour mettre en place la date. Et bien de la même façon, nous avons deux styles de tzadikim. Nous avons des tzadikim, j'ai envie de dire, qui ne dépendent pas véritablement de leurs actions, et d'autres qui dépendent de leur grandeur personnelle. De quoi je parle ? Vous avez d'un côté Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, Yitzhak et Yaakov est Ma'avot. J'ai envie de dire, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a choisis comme ça, il n'y a pas vraiment grand chose à faire. Avraham, il restera Avraham quoi qu'il arrive. À l'inverse, il y a Tzadiké Adorot, les Tzadikim des générations, qui sont devenus Tzadikim de par leurs actions. Donc nous avons plusieurs styles de personnages. Avraham, Yitzhak, Yaakov, qui sont, d'après ce qu'on est en train d'étudier, Miprinat, Shabbat. Et nous avons Moshe, Aaron, Yosef et David, qui sont Miprinat, Yom Tov. D'accord ? Alors pourquoi je dis Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David ? Vous l'aurez compris, on parle ici des Ushpizin. On parle des sept Rohim. On parle de ce qu'on va chanter dans le dernier couplet de Maosour, Akem Lanu Roem Shiva. Donc c'est de cela dont on parle. Ah ben ça tombe bien, puisque nous avons quatre fêtes. Nous avons Shabbat, et on a dit ça c'est Avraham Yitzhak Yaakov. Et puis nous avons Pessah, Shavuot, et qu'est-ce que nous avons encore comme fête ? Rosh Hashanah et Yom HaKippurim, qui sont Aseret Yemei Teshuva, qui forment un tout. Et nous avons Chag HaSukkot. Et donc, nous avons quatre tzadikim qui sont chacun Miprinat, Moshe, Aaron, Yosef et David. Tout simplement. Alors, qui est quoi ? Eh bien, c'est très simple. La fête de Pessah, c'est Keneged Yosef, évidemment. Puisque Yosef est l'instigateur de la délivrance, c'est lui qui va lancer le point de départ de la délivrance, et donc Yosef et Keneged, Chag HaPessah, des points de départ de la Géoula. Shavuot, Matan Torah, c'est évident que c'est Moshe Rabbeinu. Ensuite, nous avons Rosh Hashanah et Yom HaKippurim, où nous sommes en train de couronner Dieu, dévoiler sa malchut, donc il est évident que c'est en rapport avec David, Melech Israël, Chai Chai Vekayam, et oui, vous êtes en train de chanter. Et enfin, la fête de Soukhot, Anané Kavod, en rapport avec Aaron HaKohen. Donc, ça tombe bien. Shabbat, Yamim Tovim. Oui, mais il n'y a pas que des fêtes des Oraita. Nous avons également des fêtes des Rabbanan. Et vous aurez remarqué que pour le moment, peut-être que d'ici l'année prochaine, on changera de disque, mais pour le moment, nous avons quatre fêtes des Rabbanan. Nous avons Purim, Hanouka, Yom HaAtzmaout, et Yom Yerushalayim. Quatre fêtes qui ont été décrétées par les rabbins des générations comme étant des fêtes des Rabbanan. Et donc là aussi, nous devons les faire correspondre, eh bien, à nos personnages par lesquels on peut se connecter à Kadosh Baruch Hu. Pour ce qui est, eh bien, de Hanouka, c'est la plus facile. C'est évident que Hanouka, c'est Keneged Aaron HaKohen, bien évidemment. À Kohanim, à Hashmonaim, c'est pas un débat. Yom HaAtzmaout, le renouveau de la Géoula de notre génération, eh bien, comme Pessah, c'est en rapport direct avec Yosef. Pour ce qui est de Yom Yerushalayim, qui mieux que David, qui a réussi à conquérir Jérusalem pour être sa journée. Et vous aurez donc compris où je veux en venir. La fête de Purim est donc directement liée à Moshe Rabbein. Eh oui. Voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de Moshe Rabbeinu comme étant, eh bien, l'idéal, l'élément qui va nous permettre de comprendre la fête de Purim. Alors venez, on rentre maintenant, ça c'était l'introduction, maintenant on peut rentrer directement dans le vif du sujet. Mais ça y est, alors non. Le Rav Hirsch a eu un rapport Hanouka avec Yosef Dafka, il me semble. Bevadaï. Quand on parle de, là ce que je suis en train de vous dire, que le tzadik qui est en relation directe avec la fête de Hanouka, c'est par rapport aux quatre à Aaron HaKohen, c'est du fait tout simplement que la Keuna est celle qui s'est mise en avant à Chag HaHanouka. Maintenant, vous l'aurez remarqué également qu'à Hanouka, nous avons 8 jours de Hanouka. Et donc, dans ces 8 jours de Hanouka, eh bien, nous avons également, et ça, c'est le propre du judaïsme, d'être capable de faire des poupées russes, parce que nous avons également à Hanouka, dans ces 8 jours de Hanouka, eh bien, toutes les sphirotes, Ken, Chesed, Gevura, Tiferet, vous connaissez, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, et enfin, Midat HaKeter, pour le dernier jour de Hanouka, Vezot Hanouka. Et donc, nous avons également l'apparition, en l'occurrence, de Yosef HaTzadik, l'avant-dernier jour de Hanouka qui est fondamental. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Ça y est. Quoi qu'il en soit, eh bien maintenant, on va pouvoir rentrer donc dans notre sujet. D'ailleurs, eh bien, je vous dis que Moshe Rabbeinu, c'est l'élément essentiel de la fête de Purim, et je ne mens pas. Je ne mens pas, pourquoi ? Eh bien, parce que vous le savez, quel est le lien direct entre Moshe Rabbeinu entre Moshe Rabbeinu et la fête de Purim, eh bien, les amis, le lien direct, vous le connaissez, puisque la fête de Purim n'est autre que la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. La Brit Mila de Moshe Rabbeinu, c'est à Purim. Rappelez-vous, Moshe est né le 7 Adar. Donc, ça veut dire que 8 jours plus tard, le 15 Adar, c'est la Brit Mila de Moshe. Vous allez me dire, oui, mais Moshe est né déjà circoncis. C'est clair. L'un n'empêche pas l'autre. Même quand tu es circoncis, tu dois faire ce qu'on appelle atafat dam. Ça, tu dois quand même faire une action qui va te rattacher à la Brit Mila. En d'autres termes, eh bien, Moshe Rabbeinu est né le 7 Adar à Purim. Il est entier dans sa relation avec le peuple juif. Donc, vous voyez à quel point Moshe Rabbeinu est directement lié à Purim. D'ailleurs, lorsqu'on parle de cette relation entre Moshe et Purim, eh bien, le Talmud va nous dire que Adar kibloua bimé achashverosh. Mais c'est Adar kibloua bimé achashverosh qu'on est revenu et qu'on a réaccepté la Torah à l'époque de achashverosh. Et nos sages vont nous dire, oui, non, Moshe, il a donné Torah chez Birtav et à l'époque de achashverosh, ils ont accepté Torah chez Béalpé. Alors, il faut bien comprendre cela parce que vous comprenez bien que la Torah chez Béalpé, elle a commencé depuis Moshe. Donc, ce n'est pas qu'on n'a pas accepté la Torah chez Béalpé avant. Absolument pas. À l'époque du premier Beit HaMikdash, eh bien, il y avait aussi Ilchot Klisheni au niveau de Shabbat. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? L'époque de Pourim est le premier moment dans l'histoire du peuple juif où on peut décider de ne plus faire partie du peuple juif. Avant cela, ce n'est pas possible. Avant Pourim, tu n'as pas le choix d'être juif. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Comment ça, tu n'as pas le choix d'être juif ? Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, dès qu'on est sorti d'Égypte, à partir du moment où on est sorti d'Égypte avec Moshe, eh bien, personne ne va t'accueillir en tant que juif. Ah oui, non, je suis très, très sérieux. Personne ne va t'accueillir en tant que juif. Eh, comment ça, personne ne va t'accueillir en tant que juif ? Je ne comprends pas. Mais oui, à partir du moment où tu es sorti d'Égypte, tu fais partie intégrante de la collectivité qui s'appelle le peuple juif. Et par rapport à la réalité de l'époque, eh bien, tu ne peux pas tout simplement aller dire « Allez, tiens, moi, je vais aller habiter chez les Philistins. » Lorsque David doit vivre chez les Philistins, rappelez-vous toute la tralouide qu'il doit faire pour se faire accepter là-bas. Et il n'est jamais véritablement accepté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une société qui vit de manière nationale, que chaque peuple a ses frontières, eh bien, si toi, tu sors de ton identité parce que tu n'en as plus envie, mais tu n'es pas du tout accepté chez les autres, tu seras toujours un paria. Et c'est pour cela que le plus grand onesh, la plus grande punition dans le judaïsme, c'est « Venichreta anefeshai mehamea ». Tu seras retranché de ton peuple. C'est la pire chose qu'on puisse te dire. Aujourd'hui, karet, on parle de choses spirituelles. Aujourd'hui, on te dit que karet, c'est quoi ? Mais c'est que tu vas mourir avant 60 ans, tu n'auras pas d'enfant, ou c'est un truc au niveau de ta neshama. Mais dans le sens le plus strict de karet, d'après la Torah, c'est que tu es apatride. Et ça, c'est terrible, parce que ça veut dire que tu es tout seul. Donc à l'époque, eh bien, depuis la sortie d'Égypte, alors effectivement, tu as pu rester en Égypte. Mais ceux qui sont restés en Égypte, ils ont disparu. Donc, depuis que tu es sorti d'Égypte, tu n'as pas le choix. De facto, tu fais partie du peuple juif qui est rentré, qui a conquis la terre d'Israël. De facto, tu t'es fait des ennemis de tous les autres peuples qui étaient autour. De facto, tu es reconnu comme étant membre du peuple juif qui a comme Dieu le Dieu d'Israël. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas de l'idolâtrie. Mais quand tu fais de l'idolâtrie, eh bien, tu sais que tu sers le Dieu d'une autre civilisation. Et pour tout le monde, il est clair que Yudke Vavke, c'est le Dieu d'Israël. Et il y a le Beit HaMikdash. Et tout d'un coup arrive l'exil de Babylone, où là aussi, on ne te laisse pas vraiment le choix. Tu as été exilé par Babylone et tu es un paria à Babylone. Et puis arrive l'Empire perse. Arrive l'Empire perse et la possibilité donnée par les Perses, eh bien, de complètement rentrer dans les rouages du royaume perse. Et oui, c'est de ça qu'on parle. Parce que pour la première fois, tu vas pouvoir t'assimiler. Et là, la grande question arrive. Comme à l'époque de Moshe. Est-ce que Moshe décide de rester prince d'Égypte, de s'assimiler, ou est-ce que Moshe décide de prendre le lead, la direction du peuple juif ? Eh bien, il en va de même pour Mordechai et Esther. Ils sont des juifs complètement intégrés dans le Shushan de l'époque. Complètement intégrés, mais ça on l'a déjà dit 12 fois, donc je ne vais pas le répéter en long, en large et en travers. Vous imaginez quand même que les deux protagonistes, les deux héros de notre paracha, enfin de notre paracha, de notre fête, s'appellent, en traduction libre, s'appellent Christian et Marie-Madeleine. Eh oui, parce que Mordechai, Mardour, eh bien, c'est le nom d'une divinité perse et babylonienne. Istahar, Astarté, elle aussi, c'est une divinité. Et donc, quand toi, tu décides de nommer tes enfants Mordechai et Esther, En plus, Esther, elle a reçu un nom juif, Hadassa. Mais ça montre bien l'assimilation culturelle dans laquelle vivait Mordechai. Eh oui. Rappelez-vous d'une chose. Lorsqu'on va nous dire dans la Megillah, Ish Yehudi Aya Beshushan Abira, Ushmo Mordechai Ben Yair Ben Shimi Ben Kish Ish Yemini. Vous vous rappelez de la suite du verset? C'est le moment où les Ashkenazim s'en donnent à cœur joie parce qu'ils vont le lire avec les ta'amim, avec les accents toniques de Tisha B'Av. Et vous savez que pour un juif ashkenaz, eh bien, quand on peut être triste, c'est ça qui nous rend joyeux. Et donc, eh bien, on va dire Hasher Ogla Mirushalayim Himagola Hasher Ogleta Im Yechonia Melech Yehuda. Mais c'est qui ce Mordechai qui a été exilé avec Yechonia Melech Yehuda? Non. Alors oui, tous les commentateurs vont nous dire c'est Mordechai. Mais nous sommes dans la Yeshiva online. Et ici, vous êtes maintenant tous des érudits de Torah ta Kabbalah. Et donc, la Torah ta Gilgulim, ça vous parle. Non, les amis, que les choses soient bien claires. La galoute de Yechonia s'est passée en l'an -597. Les événements de la Megillah de Ishiéhoudi Aya Beshushan Abira se passe en -479. C'est-à-dire plus de 120 ans après. Vous comprenez bien que ce n'est pas du tout plausible que Mordechai était déjà un dignitaire juif à l'époque de Yechonia, qu'il a été exilé avec Yechonia, et que 120 ans plus tard, il est toujours un des responsables de la communauté juive de Shushan. Non, Mordechai, il n'a pas 200 ans. C'est pas... Non. Non, ça ne marche pas. Mais non, mais t'inquiète pas, il était bébé, maintenant il a 120 ans. C'est possible. C'est possible, mais ce n'est pas du tout plausible. Ce qui est beaucoup plus plausible, c'est qu'il faut lire le verset autrement, qui nous dit « Ish Yehudi Aya B'Shushan Abira » Donc il y avait un juif qui était à Shushan, il s'appelle Mordechai. Lui-même est le fils de Yair, qui est le fils de Shimi, qui est le fils de Kish. « Asher Oglam Yerushalayim » Que Kish a été exilé de Jérusalem. Allô? Ouais. Que Kish a été exilé de Jérusalem. Il est possible que son fils Shimi était déjà en vie à ce moment-là. Mais il y a fort à penser que Yaïr est né à Babylone ou à Shushan et Mordechai est né à Shushan. Mais vous savez, c'est comme tous ces Juifs qui ont quitté leur shtetl, leur petit village de Pologne, qui sont arrivés aux États-Unis et qui, au bout d'une ou deux générations, eh bien, ont complètement changé leur nom pour bien montrer leur assimilation à la culture environnante. Et les amis, Mordechai et Esther sont exactement à cette croisée des chemins. Est-ce que je reste assimilé ou est-ce que Adam ou alors je
soit le rabbi nous fait une blague, soit c'est un bug. Alors disons,
eh bien, de revenir vers mes origines. Alors, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui.
C'est joli. Il y a un style.
On peut donner le nom de Kai à un petit bébé qui vient de naître et c'est un nom extrêmement juif.
Arapison.
De quoi?
Bon, et ben. Vous pouvez rallumer vos micros en attendant que le Rav se reconnecte. Petit bug, écoutez, c'est les aléas du direct. Je vois que le... Ah non, mais il est déjà là, le Rav Fison. Ah. Rav,
tu m'entends?
Voilà, ça y est, on vous attend.
Qu'est-ce qui s'est passé?
On vous a perdu la dernière minute là.
Et pourquoi c'était très... Parce que moi je vous entendais.
Oh là là. Alors?
Vous m'entendez pas?
Ah, ça bug,
vous m'entendez? Vous m'entendez pas? Ça bug. Ça... Et là, c'est mieux? Allô, allô?
Vous m'entendez? Ouais. On vous entend, Aram? On vous voit moins? C'est pas très grave? Dites quelque chose, Aram?
Allô, allô? Houston?
Ouais, ça y est.
Vous m'entendez?
Allez, on vous entend, on vous voit.
Bon, bah, c'est pas mal. Ok, bah, alors je ne sais pas où je vous ai perdu. Donc, dites-moi.
Vous avez perdu il y a une bonne minute.
D'accord. Bon, on était sur le coup de l'assimilation et le choix de revenir ou pas. Ça, vous l'avez eu ou pas?
Oui.
Ok. Bon, bah, j'ai pas la vraie là-dessus. Pendant une minute. Donc, tout va bien. Alors, dès qu'il tourne, alors je me remets en mode de paysage. Voilà. Et donc, eh bien, de la même façon que Moshe Rabbeinu a dû choisir, est-ce qu'il reste au niveau de son assimilation égyptienne ou est-ce qu'il revient dans son identité, eh bien, à Pourim, de la même façon, nous aussi, nous avons choisi, avec Mordechai, eh bien, de revenir à notre identité. Nous sommes à Jérusalem, Nahum, exactement. Ça a été le choix fait par la suite de Pourim, eh bien de revenir avec Ezra et Néhémia. Je rappelle que Ezra et Néhémia reviennent en Israël sous l'impulsion de Dariavesh Hasheni, le fils de Xerxès, le fils de Achashverosh et de Esther. Donc, évidemment, il y a ici un choix qui a été donné au peuple juif. D'accord? Donc, on commence à comprendre à quel point la personnalité de Moshe Rabbeinu est directement liée à la fête de Pourim, mais ça va beaucoup plus loin. Moshe Rabbeinu serait-il, dans son message, lié à Mordechai et Esther de manière encore plus profonde? Eh bien, la réponse est évidemment que oui. Le Talmud, dans le traité de Houlin, à la page 119, je crois, va nous faire toute une explication pour nous dire qu'on veut essayer de trouver où sont marqués dans la Torah Moshe, Aman, Mordechai, Esther. Là, on va nous dire Moshe mina Torah minaïn, Mordechai mina Torah minaïn, Esther mina Torah minaïn, Aman mina Torah minaïn. Donc, on ne peut pas ne pas relier les personnages. Si tu me fais toute une explication, tu me dis où est-ce qu'on va trouver Mordechai, Esther et Aman dans la Torah, je peux comprendre, on t'a fait une dracha sur Pourim. Mais quel rapport avec Moshe? Etan, Mordechai. Attends, une question dans le chat. Une question dans le chat. Alors on les fait après, les questions du chat. Et là, ça arrive tout le temps. Mordechai né ou pas en Israël? Est-ce que Mordechai est né en Israël? Ah, j'ai compris. D'après ce que je viens de vous dire, à mon sens, Mordechai n'est pas né en Israël. À mon sens, Mordechai, il est né à Shushan. Et historiquement, c'est beaucoup plus plausible. Est-ce que je viens contredire tous les Midrashim? Non, c'est pour ça que je vous ai expliqué tout à l'heure que Torah Tagilgul peut nous expliquer que même, je dis, je sais bien ce que dit le Midrash. Je dis simplement que, historiquement, vous savez bien que le Midrash ne vient pas forcément nous donner une vérité historique. Le Midrash vient nous expliquer un enseignement profond. Et donc, j'ai dit, soit tu viens étudier Torah ta Gilgul, qu'en fait, Mordechai qui est né à Shushan, c'est le Gilgul de Kish, qui lui a été exilé de Jérusalem. Ou alors, eh bien, tu viens tout simplement dire que Mordechai, certes, il est né à Shushan, mais il porte avec lui tous les espoirs de ceux qui sont nés à Jérusalem et qui ont été exilés. C'est-à-dire, le Midrash, rappelez-vous, n'est pas forcément une réalité historique. Des fois, oui, mais très souvent, non. Donc tout ça pour dire, je reviens à ma camarade, à ma Maseret Roulin, qui va nous expliquer que, eh bien, Mordechai, Esther et Aman, dans leur dracha, eh bien, on vient les mettre directement à côté de Moshe. Comme si Moshe, alors on va mettre Aman de côté, parce que Aman, c'est plus Amalek, et donc on va laisser au Rav Cherki, j'ai vu que c'était le titre de son intervention. Mais pour ce qui est de Mordechai et de Esther, eh bien, il semblerait donc qu'il y a deux dimensions de la Torah qui sont reliées à Moshe, celle de Mordechai et celle de Esther. Puisque effectivement, on a dit que Mordechai et Esther sont des non-goy, mais la Gemara, dans le traité de Megillah cette fois, eh bien, va les expliquer de manière juive. On va donner à ces non-goy une réalité juive. C'est très juif de faire ça. Et donc, par rapport à Mordechai, on va dire des Maredachia, Morderor, c'est-à-dire une plante qu'on voit et qui est reconnaissable. Et Esther, c'est Aster Astirpanai Bayomahou, c'est-à-dire une dimension cachée. Comme s'il y avait chez Mordechai une dimension dévoilée, et chez Esther, une dimension cachée. Comme s'il y avait deux, une Torah et une Torah cachée. Ah tiens. Comme s'il y avait la Torah du Niglé et la Torah du Nistar. Deux dimensions de Torah complètement différentes. Deux dimensions de Torah complètement différentes. Ce que nous, on appelle aujourd'hui, eh bien, l'enseignement de la Halakha et l'enseignement de la Kabbalah. Et les deux sont reliés directement à Moshe Rabbeinu. Car comme vous le savez, la Halakha commence avec Moshe, la Kabbalah commence également avec Moshe. Où est-ce que la Kabbalah commence avec Moshe? Comment est-ce qu'on sait que Torah Tassod, elle commence directement avec Moshe Rabbeinu? Eh bien, rappelez-vous de ce verset qui vient conclure le Mahamad Arsinaï. Lorsqu'il y a la fin du Mahamad Arsinaï, Dieu va dire à Moshe, Ale elai ahara, ve'etena lecha. Donc Dieu lui dit, monte sur la montagne et je vais te donner plusieurs choses. On lui dit l'uchota even, va Torah, va mitzvah, asher katavti leorotam. Cinq choses. À Torah, nous dit la Gemara de Masechet Brachot, c'est Torah shebirta. L'Uchot HaEven, tout d'abord, c'est Aseret HaDibrot, c'est Fasosh. Ensuite, à Torah, on nous dit c'est Torah Shebirtav. HaMitzvah, Torah Shebealpe, la loi orale. Asher Katavti, c'est les prophètes. Leorotam, c'est Talmud, c'est-à-dire tout ce qui va être le cheminement pour arriver à la Halakha. Donc tout ça n'est pas très Torah Takabala. Sauf qu'on va finir par nous dire Vayaal Moshe. Et Vayal, Moshe est monté, Zé Torah Tassod. En d'autres termes, il y a deux Torahs qui viennent du Bet Hamidrash de Moshe Rabbeinu. Torah Taniglé, Zé Torah Tanistar. Torah Mordechai, Zé Torah Esther. Et il semblerait qu'à Purim, eh bien, le but est d'arriver à dévoiler les deux. On vient de lire ce Shabbat, la paracha de Tetzavé. Ah très bien, on a lu la paracha de Tetzavé. C'est pas mal Tetzavé. Mais dans la paracha de Tetzavé, qui est une paracha complètement niglette, c'est-à-dire que c'est une paracha dans laquelle on nous inscrit les différents guédim pour pouvoir rentrer au Beit HaMikdash. Les Kohanim, les Bigdei Kehuna. C'est-à-dire qu'on va nous expliquer comment est-ce que celui qui sert d'intermédiaire à la rencontre avec Dieu, donc comme on a dit au tout début de notre enseignement, eh bien, comment est-ce qu'il peut se connecter à Dieu? Et puis, il y a un verset qui nous dit que le tzitz, vous savez, la couronne, le diadème où il y avait marqué Kodesh Lashem, ve'aya al mitzro tamid. Et la question, c'est que non, il n'est pas tamid. Puisque lorsque le Kohen Gadol n'est pas en fonction, il n'a pas le droit de se balader à l'extérieur du Beit HaMikdash avec son tzitz. Donc, Mazévaïa al-Mitzro Tamid, eh bien, nous dit le Talmud, que Tamid, c'est Shiviti Hashem l'Enegdi Tamid. Et qu'est-ce que ça veut dire Shiviti Hashem l'Enegdi Tamid, Rabotai? Tamid, ça veut dire même quand c'est pas là. Et j'allais même dire que même quand c'est pas là, c'est encore plus là. Tamid, ça veut dire que lorsque ça se voit que je suis en train de faire le korban à Tamid, bah c'est dévoilé, je suis en train de faire le korban à Tamid. Oui, mais l'influence du korban à Tamid, eh bien, c'est justement quand il n'est pas en train d'être sacrifié. En d'autres termes, Vayal Mitzro Tamid, c'est évidemment une dimension officielle, mais c'est également une dimension complètement intérieure. Que tu dois ressentir que le tzitz, il est avec toi, Tamid. Ainsi donc, nous avons, dans la paracha qu'on vient de lire, qui est pratiquement toujours lue avant Pourim, eh bien, cette dimension de dévoiler et de cacher. Mais la paracha de Tetzavé, ce n'est pas la seule. Vous avez également la paracha qu'on va lire juste après Pourim, la paracha de Kittissa. Dans cette paracha de Kittissa, alors là, les amis, que les choses soient bien claires, les choses sont encore plus simplement officielles. Je vais juste, et je sais, je suis vraiment désolé, mais il y a des gens qui sont en train d'installer plein de choses, et donc ça va faire plein de bruit, donc je suis obligé de changer d'endroit une troisième fois. La vie est dure. Voilà, ça va le faire. À un moment donné, on va y arriver. Vous inquiétez pas. Mais si vous ne pêche, on appelle ça la Torah. Qui seront? Et donc, dans la paracha de Kitsa, que nous allons lire ce Shabbat, eh bien, qu'est-ce qu'on va nous enseigner? Vous savez, on nous enseigne que ça gagne la deuxième fois. On redescend du Hatsina et cette fois avec les deuxièmes Luchot. Dans la montagne, cette deuxième fois, rappelez-vous de Michel-Ange, avec sa fameuse statue de Michel-Ange, où il représente Moshe Rabbeinu, avec, et bien simplement parce qu'il y a marqué dans la Torah, « Kikaran Or Panav ». Mais qu'est-ce que c'est Karan Or Panav? Que son visage illuminé, lorsqu'il redescend de Har Sinai pour la deuxième fois, eh bien, il a un visage qui illumine. Non mais attendez, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si vous demandez à la majorité des gens, ils vont vous dire, ben oui, il a mis un masque de Pourim. Sem al Panav Masve. Il a mis un voile. Et les gens te disent, ben oui, forcément, il est descendu de la montagne, il est éclairé, il est illuminé, il irradie. Les gens ont peur, il met un masque. Sauf que non, absolument pas. Ce n'est pas ce qui a marqué dans la Torah. Dans la Torah, il y a marqué qu'il descend, qu'il illumine, que les gens ont peur, et qu'il leur dit, venez, je ne mords pas. Et il leur enseigne une Torah dévoilée. Pas masqué. Et une fois qu'il a terminé de leur enseigner, il met son masque, son voile. Comme pour leur expliquer qu'il y a une partie de la Torah qui est dévoilée et une partie de la Torah qui est, comme son nom l'indique, voilée. Et rappelez-vous de la formulation « Umoshe loyada kikaran orpanav ». On pourrait traduire de manière vulgaire « Et Moshe ne savait pas que sa face éclairait. » Mais oh non, pas du tout, au contraire. Moshe était tellement conscient de sa réalité. « Moshe loyada » qui, pas dans le sens de « car », mais dans le sens de « quand ». Oui, Rachid nous a déjà expliqué dans le traité de Rosh Hashanah que « qui » dans la Torah peut avoir plusieurs explications. Et ici, il s'agit de « quand ». Où Moshe Loyada, Moshe est arrivé à la dimension de Loyada, lorsque son visage éclairé. C'est-à-dire, tu veux savoir quand est-ce que Moshe arrive à la dimension de Adbeloyada, eh bien, à chaque fois que son visage se mettait à illuminer, ça veut dire qu'il était en train d'être dans la dimension de Adbeloyada. Et c'est fou, ça. C'est extraordinaire. Donc, la dimension que nous devons atteindre à Pourim tous ensemble, Adbeloyada, en fait, c'est la dimension qui nous a été montrée par Moshe Rabbeinu. Ce que le Sefer HaZohar appellera Reisha de la Itiada, la tête qui n'est pas connue, la roche à Biltinoda. C'est-à-dire que tu connais tellement que tu arrives dans une dimension où tu ne connais pas. Mais tu ne connais pas parce que tu es idiot et que tu n'as aucune information. Tu ne connais pas parce que tu connais tellement. Et c'est ça toute la grande différence entre un élève de sixième qui ne sait pas ce que c'est de résoudre une équation différentielle et quelqu'un qui est mathématicien, professeur de mathématiques, de ce que tu veux, qui comprend ce que c'est l'infini des mathématiques. Il comprend qu'il ne sait pas. Mais ça vient de, justement, un grand savoir. Ainsi donc, à Pourim, eh bien, on a l'habitude de boire un petit coup. Et je ne rentre pas dans la question halakhique de savoir est-ce qu'on boit, est-ce que la pi halakha, combien on a le droit de boire. C'est pas mon débat ce matin. Mais on boit un petit coup pour arriver à cette dimension de Adeloyada. Mais attention, tu ne seras Adeloyada pour de vrai que si tu es avant d'avoir bu un petit coup, Malé Bedat. Ce n'est que si tu es malé bedat que nirnas yain yotse sod. Parce que si ce que tu as à l'intérieur, zeshtuyot, nirnas yain yotse shtuyot. Aval, si tu es plein de dat, vous vous rappelez, on a dit qu'il y a Moshe qui est mis en relation avec Mordechai et Esther dans la Gemara. On a dit qu'il y avait aussi Aman, je ne vais pas en parler parce que j'ai vu que c'était le titre du Rav Cherki, mais dans cette même Gemara, quand on va nous dire « Mais où est-ce qu'est marqué Aman dans la Torah ?» Eh bien, on nous dit « Amina etz, asher tzivitecha lo le'echol mimeno achalta » On parle de Aman en le faisant correspondre à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, « etz da'at » Tovara. En d'autres termes, Rabotai, Chag HaPurim, Derech Mordechai, Esther, Aman et Moshe Rabbeinu, eh bien, on arrive à comprendre cette dimension de l'Oyada. Cette dimension de Reisha de la Itiada. C'est la dimension que nous devons atteindre à la fête de Purim. C'est la dimension que nous devons être capables eh bien, de mettre en avant dans notre génération. Nous sommes la génération que Moshe Rabbeinu aurait rêvé, à laquelle Moshe Rabbeinu aurait rêvé de participer. Nous sommes la génération qui s'entendrait parfaitement avec Moshe Rabbeinu. Une génération qui étudie Torah Tanigle et qui vit Torah Tanistar. C'est de cela dont on parle, les amis. Nous étudions tous les jours la halakha, Torah Taniglé, le Talmud, et sans nous en rendre compte, nous vivons l'enseignement de Torah Takabala. Aujourd'hui, alors nous on l'enseigne, on l'étudie aussi, mais il faut que vous compreniez qu'on est en train de vivre l'enseignement de Torah Takabala. Cet enseignement qui nous a appelé à revenir à Sion, qui nous a rappelé à être une nation, qui nous a rappelé à dévoiler à Kadosh Baruch Hu dans nos actes, pas seulement individuels, mais au niveau collectif, nous sommes la génération qui vivons cette Torah Tassod. En d'autres termes, notre Pourim, eh bien, est infiniment plus Pourim que celui de toutes les générations. Et je terminerai avec cette phrase du natif de Vologine qui posait la question par rapport à ce verset de la Megillah qui nous dit ve ayamim ha'elo veyimei ha'purim ha'ele sticha lo ya'avru mitoch ha'yehudim vezichram lo yasuf mizar'am que ces journées de Pourim ne disparaîtront pas des Juifs et leur souvenir ne disparaîtra pas de leurs descendants, le natif de Volozhin pose la question et dit, mais attendez, les descendants des Juifs, c'est les Juifs. Donc si tu m'as dit que les séjours de Pourim eh bien, ne disparaîtront pas des Juifs, ça comprend également leurs descendants. Et répond le natif en disant, non, les descendants des Juifs, ce n'est plus les Juifs, c'est un Israël. Le juif, le terme juif, c'est notre appellation en exil. Israël, c'est notre appellation des Géoula. Et donc, eh bien, on va nous dire, mais mon ami, lorsqu'on sera redevenu Israël, à ce moment-là, les journées de Pourim prendront leur vraie force. Pendant tout l'exil, les journées de Pourim étaient une journée de commémoration d'un moment où il y a des méchants qui ont voulu nous tuer, on a été sauvés. Comme dirait l'autre, c'est quoi une fête juive ? On a voulu nous tuer, ils n'ont pas réussi, viens on bouffe. Mais aujourd'hui, la fête de Pourim peut enfin prendre sa vraie valeur qui est d'arriver à Ad Deloyada pour dévoiler à Kadosh Baruch Hu sur la terre d'Israël, Betorat Israël, Im Am Israël, Chag Sameach, les Koulam, et vous pouvez poser les questions.
Je vois qu'il y a une première question de Rabbin Messan. Monsieur Messan.
C'est juste, merci pour ce cours très important, mais il y a quelque chose qui m'a un peu choqué, c'est l'histoire de où est né Mordechai.
Oui.
Mais ce que j'ai lu, la Gemara, et Megillah 62 à la bas, qui nous dit que quelqu'un de Knesset Israël, quand il quitte le Knesset, il était en position 4 et quand il revenait, il perdait une position, il était assis en position 5, comme s'il était né en Israël et il siégeait au Knesset d'Israël.
Alors, tout d'abord, je vous rappelle que quand on a cité tout à l'heure le Midrash, on a dit que ça n'a pas forcément une valeur historique. De la même façon, les enseignements de la Gemara, pareil, ne sont pas forcément tous à prendre au pied de la lettre. Maintenant, pour ce qui est de cet enseignement-là, il ne nous pose aucun problème, pour la simple raison que, bien sûr, Mordechai, on vient nous dire qu'il vient, il faisait partie de la Knesset Agedola, et une fois qu'il est revenu, il a perdu sa place, parce que bon, bah, les gens ils étaient un petit peu réticents. Mais cela fait écho à cet autre Midrash, qui nous dit qu'il habitait en Israël, mais on ne nous dit pas qu'il y est né, qu'il habitait en Israël parce qu'il serait revenu avec la déclaration Koresh, la déclaration de Cyrus. Donc à ce moment-là, ça commence à devenir plausible. Je vous explique. La déclaration de Cyrus, c'est en moins 538. On a dit 50 ans auparavant, il y a eu l'exil de Yéchonia. Moi j'ai dit, Yéchonia a été exilé avec l'élite juive, donc avec un monsieur qui s'appelle Kish. Et j'ai dit, il est très probable que son fils Shimi était déjà en vie. Et qu'après, ben, son fils Yaïr et son fils Mordechai sont nés à Babylone ou en Perse. Et donc, 50 ans plus tard, eh bien, Mordechai peut être tout à fait en vie, 50 ans après. D'ailleurs, il peut même avoir, je ne sais pas moi, disons qu'il a 10 ans à ce moment-là. Il revient avec son père Yaïr, avec Zerubbabel, parce qu'il y a quand même une petite, toute petite partie de Juifs qui est revenue, 2000 personnes sont revenues. Peut-être que la famille de Mordechai, qui était une élite juive, puisque s'ils ont été cités avec la galoute de Yéchonia, c'est que c'était une élite juive, et bien peut-être qu'ils sont revenus. À ce moment-là, il a grandi en Israël, et ça re-rentre dans l'histoire de la Gemara. Il est devenu rabbin, il est devenu dans le Sanhédrin, ensuite il est parti à Shushan pour l'histoire de la Megillah, et ensuite il revient. Donc ça marche.
Alors, question de Alex.
Shalom Ethan, Shavuatov.
Shavuatov.
Voilà, je vais te poser une question. Maintenant, tu es voilà, à Paris, tu es en France, tu vas leur dire Mordechai et Esther, c'est la Torah chez Niglé, la Torah chez Nistar, vous pouvez la dévoiler très bien là-bas, vous pouvez rester là-bas, tout va très bien.
Ben non, je ne peux pas leur dire ça.
Ah ben.
Je ne peux pas leur dire ça, pour une raison très simple. Je ne peux pas dire à quelqu'un que tu peux manger un jambon beurre et dévoiler en même temps un Kadosh Baruch Hu. C'est pas possible.
Mais alors, tu viens de dire qu'il dévoilait Torah chez Nistar et Torah chez Niglé.
Alors, ils étaient en perte. Question, alors. Ah, non. Ah, j'ai compris ta question. Lorsque Mordechai et Esther, les personnages, Mordechai et Esther, tu dis, que, c'est ce que tu as compris de moi, que c'est eux qui dévoilaient Torah Tanigle, Torah Tanistar. Ah oui, mais mon ami, à qu'est-ce que lâché est là ? C'est quand Mordechai, il y a un changement énorme entre le Mordechai du début de la Megillah et le Mordechai de la fin de la Megillah, puisque le Mordechai de la fin de la Megillah est complètement avec son identité. Et je te rappelle que la génération qui suit Mordechai et Esther, c'est la génération de Ezra et Nehemia. Est-ce que Mordechai n'aurait pas été celui qui aurait enseigné la halakha qu'il faut remonter en Israël ? Est-ce que Esther n'aurait pas été celle qui a susurré à l'oreille de son fils qu'il faut redonner le décret pour faire vivre le peuple juif en Israël ? Ainsi donc, bien sûr que le réveil de la Torah Taniglé Vanissar commence Bechutz Laaretz, comme avec le Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov et tous ceux qui ont au réveil national. Mais il est évident que la Torah Tanista, Paris est un endroit qui nous empêche de nous connecter fondamentalement avec Dieu. Pourquoi ? Parce que l'exil n'est pas l'endroit où on doit se connecter à Dieu. J'ai commencé le cours en disant qu'il y avait des temps de connexion, des personnages de connexion et un lieu de connexion également. Donc, tant que tu n'as pas le choix, que tu es en exil, bah, tu fais avec. Mais lorsque tu as le choix et que tu décides de rester en exil, c'est un véritable problème. Donc, moi, j'ai fort à penser que tous les Juifs du monde qui ne sont pas encore en Israël, c'est que forcément, ils n'ont pas le choix. Je ne veux pas imaginer qu'il y ait des Juifs qui décident sciemment de rester Bechutz Laaretz. Ça me paraît complètement absurde, aberrant.
Elle te dit Esther Kacher Avadeti Avadeti. Donc même la Torah c'est des stars, elle est perdue hein, là-bas.
Mais Esther, mon ami, elle est perdue. Il y a un sacrifice lorsque tu dis des choses qui sont. C'est pas moi qui vais t'apprendre cela, tu le sais très bien. Rappelez-vous de cette histoire que nous raconte Rabbi Chaim Vital. Qu'un jour, lorsque le Harizal a vu un corbeau voler au-dessus de sa tête, il a compris que son fils était mort à cause des secrets qu'il était en train de dévoiler. Les amis, rentrer dans les secrets de la Torah, ça a un prix. Esther, elle est consciente qu'elle ne sortira pas du palais d'Achashverosh, et effectivement, elle n'est pas sortie du palais d'Achashverosh. Le Gaon de Vilna, il a envoyé tous ses élèves en Israël, mais il savait que lui ne pourrait pas venir. Nachon, c'est une réalité, elle est terrible. Je ne suis pas Dieu pour l'expliquer, donc je ne sais pas comment te l'expliquer, mais la réalité est qu'il y a un prix à payer pour passer de l'exil à la Géoula. Je pense que, sans rentrer dans le cours du Rav Cherki qui va faire, je pense qu'on a payé un sacré prix pour passer de l'exil à la Géoula.
Ah oui. Merci beaucoup, Toda Rabba. Merci, Ethan. Arapizo, Toda Rabba, Shavu, Atov.
Voilà, désolé de ces petits changements de direction et changements de trucs, mais bon voilà, j'ai essayé de faire mieux de réseau ici. C'est les aléas du direct. Razak Obaro, Chag Sameach. Voilà.
Chag Sameach.
Merci,
Bon retour.
Call to.